Le journal présenté par Ilan Malka.
Bonsoir. Bonsoir à tous. Faut-il mettre en place de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord? Voilà la question qui doit être tranchée donc ce soir par le Conseil de sécurité de l'ONU qui examine un projet de résolution américain. Pékin va-t-il ce soir soutenir ou voter contre le régime de Kim Jong-un? C'est l'une des questions qui se posent. Notre correspondante à Shanghai, Angélique Forget, nous en dira plus. En Iran, le président Hassan Rouhani a prêté serment aujourd'hui. Il avait, on s'en souvient, été réélu pour un deuxième mandat au mois de mai dernier. Il a pour l'occasion aujourd'hui vivement critiqué le président américain Donald Trump. Notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi, nous dira pourquoi. En France, une commune décide de prendre le taureau par les cornes face aux fameux perturbateurs endocriniens. La ville de Grande-Synthe, dans le Nord, lance toute une enquête sur le sujet. Lise Verbeek nous dira précisément en quoi consiste cette action. Et puis, la rémunération des professionnels travaillant en équipe dans les maisons de santé va être revalorisée de 10 millions d'euros environ pour cette année en vertu d'un accord entre l'assurance maladie et les syndicats. On l'apprend aujourd'hui. Nous entendrons les explications de David Ravier à ce sujet. Le Conseil de sécurité de l'ONU examine donc ce soir de nouvelles sanctions éventuelles contre la Corée du Nord. Il s'agit d'un projet de résolution américain qui vise à priver Pyongyang $1 milliard de revenus provenant des exportations. Les regards se tournent vers la Chine. On ne sait pas si Pékin fera jouer ou non son droit de veto à ces sanctions. Depuis début juillet, les États-Unis discutent beaucoup avec la Chine à ce sujet. Les diplomates américains cherchent à convaincre Pékin que le temps des discussions est terminé. À Shanghai, Angélique Forget.
C'est avec une main tendue vers la Chine que le chef de la diplomatie américaine aborde cette journée de vote à l'ONU. Jeudi dernier, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a affirmé que les États-Unis ne voulaient pas renverser le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Une déclaration accueillie avec soulagement par la Chine, car Pékin craint plus que tout l'effondrement de la dictature de Pyongyang qui provoquerait un afflux de réfugiés nord-coréens sur son territoire. Pire, une guerre ouverte sur le sol nord-coréen entraînerait une présence militaire américaine juste à côté de la frontière chinoise. Et ça, Pékin n'en veut pas. L'annonce de Rex Tillerson vise donc à rassurer la Chine avant le vote. La résolution américaine prévoit d'empêcher les exportations nord-coréennes de fer et de plomb, ainsi que leurs minerais, mais aussi de charbon, de poissons et de fruits de mer. Selon les estimations, l'ensemble des sanctions reviendrait à priver la Corée du Nord $1 milliard de recettes. Mais difficile pour Pékin de se positionner en faveur ou non d'une asphyxie économique du régime nord-coréen. La Chine est le principal allié diplomatique mais aussi économique de la Corée du Nord. 90% des échanges du royaume ermite se font avec la Chine. Dans ces conditions, Pékin est-elle prête à lâcher Pyongyang? Une seule certitude, le vote de la Chine à l'ONU aura un impact sur l'état des relations sino-américaines.
Et ce vote de l'ONU se déroule donc tout à l'heure à 19h heure universelle, il sera 21h à Paris. Au Venezuela, la pression monte d'un cran sur le président Nicolas Maduro. Le Mercosur annonce aujourd'hui la suspension du pays jusqu'au rétablissement de la démocratie. On rappelle que le Mercosur, c'est un bloc sud-américain de libre-échange auquel appartiennent plusieurs pays, comme par exemple le Brésil, le Paraguay, l'Uruguay, l'Argentine ou encore donc le Venezuela. Les ministres des Affaires étrangères du Mercosur étaient réunis à Sao Paulo et ils demandent donc notamment le démantèlement de la nouvelle assemblée constituante vénézuélienne. Par ailleurs, au Venezuela toujours, l'Assemblée générale constituante, justement, a décidé aujourd'hui qu'elle siégerait pour 2 ans maximum. Elle a également décidé de relever de ses fonctions la procureure générale Luisa Ortega, qui est l'une des principales figures de l'opposition à Nicolas Maduro. Ce matin, le parquet général se disait, photo à l'appui, assiégé par l'armée. Hier, des mesures de protection pour Luisa Ortega ont été demandées par la Commission interaméricaine des droits de l'homme, qui estime que la vie de l'ex-procureur est menacée. Le président iranien Hassan Rouhani a prêté serment aujourd'hui devant les parlementaires de son pays. Il a été réélu, on s'en souvient, le 19 mai dernier. Il a promis pour ce second mandat de davantage tourner l'Iran vers le monde. Lors de son premier mandat, il avait été l'un des artisans de la conclusion à l'été 2015 de l'accord fixant un cadre aux activités iraniennes nucléaires, levant de ce fait progressivement les sanctions. Écoutons notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi.
En recevant la chef de la diplomatie européenne avant même la cérémonie d'investiture, Hassan Rouhani a critiqué la politique des États-Unis à l'encontre de l'accord nucléaire et la position hostile du président Donald Trump, la violation répétée de ses engagements par le gouvernement américain et les nouvelles sanctions contre l'Iran peuvent être destructrices, pour l'accord nucléaire, a déclaré Hassan Rouhani. Mais il a ajouté que l'Iran ne sera pas le premier à violer l'accord nucléaire, mais répondra de manière appropriée et réciproque aux actions des États-Unis. Hassan Rouhani commence en effet son second mandat alors que les sanctions américaines adoptées il y a quelques jours rendent difficiles les investissements étrangers dont l'Iran a besoin pour relancer son économie, ce qui constitue le principal défi du nouveau gouvernement. Le chômage n'a cessé d'augmenter ces dernières années et a atteint désormais 12,7% de la population. Sur le plan intérieur, Hassan Rouhani est également critiqué par ses alliés réformateurs car il aurait finalement renoncé à nommer des ministres femmes dans son prochain gouvernement et aurait accordé très peu de place aux réformateurs qui l'ont pourtant soutenu très activement durant la campagne présidentielle.
Aux États-Unis, c'est une montée en puissance de l'enquête qui concerne les liens présumés entre Donald Trump et la Russie pendant la campagne présidentielle. Plusieurs grands journaux américains affirment que le procureur Mueller a constitué un grand jury qui pourrait déboucher sur des poursuites pénales. Par ailleurs, pour la première fois, l'équipe du procureur a demandé des documents précis à la Maison-Blanche. Alors pour faire un point précis sur cet emballement de l'enquête, écoutons notre correspondant à New York, Marco Walter.
Donald Trump a beau être parti en vacances et jouer au golf dans sa résidence du New Jersey, les enquêtes se poursuivent. L'investigation conduite par Robert Mueller a même pris une nouvelle dimension cette semaine. Après la Virginie, le procureur spécial a formé un grand jury à Washington. Cette sorte de chambre d'instruction lui permet notamment d'entendre des témoins à huis clos. Donald Trump Jr., le fils du président, aurait été appelé à comparaître. Puis hier, on apprenait que les enquêteurs auraient demandé à la Maison-Blanche de fournir des documents, cette fois concernant Michael Flynn, l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump. L'information révélée par le New York Times n'a pas encore été confirmée, mais les signes de la montée en puissance de l'enquête sont bien là. Reste que si les nouvelles révélations sont quasi quotidiennes, la plupart des experts sont unanimes. Nous sommes plus proches du début que de la fin de l'enquête. Certains rappellent que le Watergate, souvent cité ici pour faire un parallèle, avait duré 2 ans avant que le président Nixon ne jette l'éponge.
Aux États-Unis toujours, il n'y aura pas de section syndicale à l'usine Nissan de Canton dans le Mississippi. Ce sont les 3400 salariés de l'usine de cet état des plus pauvres des États-Unis qui en ont décidé ainsi. Ils ont voté non à 60% lors d'un référendum. Sur fond de division politique mais aussi raciale, c'est une victoire donc pour la direction de Renault Nissan face au syndicat UAW qui lutte depuis des mois pour que les salariés puissent justement se syndiquer. Voici le témoignage de Fabien Gache. Il est délégué central CGT de Renault Nissan. Il s'est rendu plusieurs fois à Canton.
On aurait préféré évidemment que le vote soit majoritaire. Ceci étant, au vu de la pression et de la répression extraordinaire qui a cours dans cet établissement, on peut considérer que 30% c'est loin d'être négligeable. Ça peut paraître incroyable quand on ne connaît pas le contexte et la situation locale. On est confronté à un établissement, une entreprise, dans le Mississippi, comme chacun sait, un des États pauvres, où Renault, l'alliance Renault-Nissan a bénéficié de fonds publics colossaux, une population noire avec, comme chacun sait, une histoire raciale particulière. D'ailleurs, dans cette usine, 80% des salariés sont noirs et majoritairement l'encadrement est blanc. Des conditions de travail particulièrement dégradées, avec plus de 50% de précaires. Je peux vous dire que les témoignages sont assez saisissants de ce que subissent les travailleurs au quotidien.
Propos recueillis par nos confrères de France Info. C'est une véritable démonstration de force aujourd'hui pour le gouvernement brésilien. Plusieurs milliers de militaires et policiers appuyés par des hélicoptères ont été envoyés aujourd'hui contre des bandes armées dans plusieurs favelas de Rio de Janeiro. Ils ont 40 mandats d'arrêt. Le gouvernement veut balancer un coup de pied dans la fourmilière suite à une multiplication de vols dans des camions de transport de marchandises. Le 26 juillet dernier, Michel Temer a signé un décret autorisant l'emploi des forces armées dans l'état de Rio de Janeiro pour lutter contre le crime organisé. Immédiatement, une force de 10 000 hommes, dont 8 500 militaires, ont pris position dans la métropole. Au Sénégal, la victoire de la coalition menée par le parti du chef de l'État Macky Sall aux élections législatives. Le groupe du président obtient donc 125 sièges de députés sur 165. La coalition de l'ex-président Abdoulaye Wade remporte quant à elle 19 sièges. Quant à la liste du maire de Dakar, Khalifa Sall, elle en obtient 7. 152 000 morts par an en Europe liés au réchauffement climatique d'ici la fin du siècle, contre 3 000 actuellement. Voilà ce que nous apprend une étude très documentée, étalée sur plusieurs décennies. Les conclusions sont alarmantes. D'ici la fin du siècle, les phénomènes liés au réchauffement de la planète pourraient faire des centaines de milliers de morts. Le nombre de victimes de la canicule, Thomas Giraudot, serait, lui, multiplié par 56.
Les épisodes de canicule devraient causer 99% des décès dus au dérèglement climatique. Plus de 150 000 morts par an entre 2071 et 2100, c'est 50 fois plus que sur les 30 dernières années. Imaginez l'équivalent de deux fois la canicule de 2003 frapper le vieux continent chaque année. Évidemment, les pays méditerranéens seront les plus touchés. Espagne, Italie, Grèce, Chypre, mais aussi la France et pas seulement le sud du pays. Les chercheurs alertent aussi sur l'élévation du niveau des mers. Les inondations sur les côtes pourraient tuer jusqu'à 250 Européens par an, contre à peine 6 sur les 30 dernières années. Tout cela dans l'hypothèse où les températures augmentent de 3 degrés d'ici la fin du siècle. Un peu catastrophiste cette étude, oui, selon certains scientifiques, qui rappellent que les États se sont engagés dans les accords de Paris à limiter à moins de 2 degrés la hausse du thermomètre.
Et c'est donc une étude de la revue britannique The Lancet Planetary Health. En France, Grande-Synthe se mobilise contre les fameux perturbateurs endocriniens. La ville, qui est située dans le nord, près de Dunkerque, va commencer en septembre une grande enquête auprès de ses habitants. Elle lance en ce moment même un appel aux volontaires. L'idée, c'est de savoir plus précisément à quel degré ces perturbateurs endocriniens touchent la population. On sait qu'ils sont notamment dans nos produits ménagers, dans nos assiettes ou encore dans nos crèmes. C'est donc un enjeu de santé publique majeur, au même titre que l'amiante ou les particules fines, selon la mairie de la commune, qui est à l'initiative donc de cette enquête. Reportage de Lise Verbeek.
Dans quelques semaines, 400 habitants de la commune, dont 200 enfants, vont donner des mèches de leurs cheveux qui seront analysées par un laboratoire au Luxembourg.
Les objectifs, en fait, c'est de mesurer l'imprégnation des perturbateurs endocriniens dans la population de Grande-Synthe, faire prendre conscience aux habitants de leur existence.
Evelyne Lelieur, pneumologue à la retraite, fait partie du comité de pilotage de l'étude.
Ils recherchent les perturbateurs endocriniens, en particulier la présence de bisphénol, et puis aussi de pesticides, et puis des PCB. Ça, c'est couplé avec un interrogatoire sur un peu, grosso modo, les habitudes de vie un peu des personnes et aussi leur lieu d'habitation dans la ville.
L'idée est ensuite de donner des conseils aux habitants pour éviter au maximum ces perturbateurs nocifs pour la santé.
Les perturbateurs endocriniens donc modifient le système hormonal à plusieurs niveaux. Donc le niveau le plus frappant pour l'instant, c'est bien sûr les malformations génitales du petit garçon, les pubertés précoces chez les petites filles, les problèmes de reproduction que peuvent avoir les jeunes couples et qui sont en augmentation très significative, et puis aussi les cancers directement hormonaux, comme les cancers du sein et de la prostate.
Damien Carême, le maire de Grande-Synthe, estime que cette enquête pourrait être décisive et inciter les lobbies industriels à retirer ces substances nocives de leurs produits.
Santé toujours, c'est une décision qui était attendue depuis longtemps. Aujourd'hui, le journal officiel a publié l'arrêté qui valide la revalorisation des rémunérations des professionnels de santé. Les syndicats et l'assurance maladie avaient trouvé un terrain d'entente en avril dernier, mais rien n'était signé jusqu'à présent. À partir de cette année, le personnel qui travaille donc en dehors des hôpitaux va bénéficier de 10 millions d'euros de budget supplémentaire. Bonjour David Ravier.
Bonjour Ilan.
Quel est le but donc de cette revalorisation ?
Pour l'assurance maladie, le but de cette revalorisation, c'est d'inciter plus de professionnels de santé à basculer vers les services ambulatoires, c'est-à-dire vers des endroits où les actes médicaux peuvent se réaliser hors d'un hôpital. Pour le docteur Jacques Battistoni, le vice-président du syndicat des médecins libéraux MG France, cette rallonge supplémentaire de 10 millions d'euros permettra de faciliter les regroupements de professionnels.
L'aspiration de beaucoup de jeunes professionnels et de beaucoup de médecins, de pharmaciens, c'est de travailler de plus en plus ensemble. Et le travail qu'ils faisaient quand ils se retrouvaient, il n'était pas rémunéré auparavant.
Grâce à ce nouveau dispositif, donc, non seulement les professionnels de santé recevront de l'argent lorsqu'ils mutualiseront leurs forces, mais en plus, il leur permettra d'avoir du personnel de coordination pour les aider à réaliser leurs tâches quotidiennes. Le but affiché de cette revalorisation, c'est également d'amener le monde hospitalier à mieux quadriller le territoire en créant beaucoup plus de maisons de santé. Alors les maisons de santé, ce sont ces fameux cabinets que partagent les professionnels médicaux de différentes spécialités et qui permettent de mieux prendre en charge les patients sans qu'ils soient obligés de passer par un hôpital ou une clinique. Et donc, qui dit plus de maisons de santé, dit en théorie moins de déserts médicaux à l'avenir.
En France, on a développé depuis les CHU, depuis 1958, beaucoup le domaine hospitalier. Et il fallait le faire parce que les hôpitaux en avaient besoin. Mais il faut que parallèlement à ce développement des hôpitaux, on développe aussi le secteur ambulatoire. Et il est grand temps de le faire. Et les sommes qui sont en jeu, là, c'est une première pierre. Mais on est encore loin du compte et il faudra encore beaucoup développer ce domaine-là et beaucoup développer la rémunération du travail en équipe pour arriver à avoir un système système de santé comme les Français en ont besoin.
La France compte actuellement plus d'un millier de maisons de santé et le gouvernement actuel espère doubler ce chiffre d'ici à la fin du quinquennat.
Merci David Ravier. Demain, il fait beau sur l'ensemble du territoire. Quelques petites averses en Normandie et dans le sud-est, mais à part cela, c'est du beau temps. Température demain matin, 16 degrés dans le Finistère et ça monte jusqu'à 30 en Corse. Journal préparé avec Brice Garcia et réalisé par Victoria Aspen.